Le chafiisme. Enfin, le chafiisme. Il constitue la quatrième et dernière école dogmatique du sunnisme. Le chafiisme prend d'abord une orientation très juridique avec l'épître « Risala » de son fondateur, l'imam Shafi'i, 767-820, un théologien de Gaza, en Palestine, mais qui passera l'essentiel de sa vie en Égypte où il mourra. Pour justifier les liens étroits que le Coran et la Sunna entretiennent entre eux, ce qui par ailleurs légitime aux yeux des sunnites une certaine proximité avec l'islam des origines, Shafi'i écrit « La Sunna, l'envoyé de Dieu, prophète Mohammed, explicite les significations voulues par Dieu. Elle constitue une indication pour le sens particulier ou le sens général du discours divin. En outre, Dieu a lié la sagesse à la Sunna et à son livre en la mentionnant immédiatement à leur suite. » Cette citation est extraite de la Risala, Les fondements du droit musulman, Sinbad, Acte Sud, 1997, page 93, dans la traduction accessible de l'Akhdar Souami. Il conclut « Il n'a confié ce privilège à aucune autre de ses créatures qu'à son envoyé. » Le seul reproche que les musulmans adressent aux quatre écoles dogmatiques du sunnisme est, sans doute, le fait que la réflexion personnelle, ray, et l'approfondissement de la sagesse coranique, ijtihad, soient momentanément interrompus, et cela à partir du IXe siècle. Mais si le poids de ces grandes formations doctrinales est sensible dans les écoles coraniques d'aujourd'hui, il est des voix qui s'élèvent désormais pour tenter de réactiver la dialectique interrompue par leurs ancêtres. Il est donc question de rétablir le travail utile de l'interprétation des textes et de leur adaptation au siècle que nous vivons. Cela pose la question des enjeux de l'islam de demain et de sa capacité d'embrasser la modernité. Pour aller plus loin, le hadith est l'une des clés du sunnisme, à la fois son cœur vibrant, son architecture et son horizon. Il convient de s'y arrêter un peu, car il est difficile de comprendre comment des faits et gestes du prophète et parfois ses phrases elles-mêmes ont pu inspirer à ce point 80% des musulmans. Il faut d'abord savoir que le hadith est devenu très vite une discipline faisant partie du cursus des connaissances que chaque imam ou théologien doit intégrer. Cette curiosité est née du fait que plusieurs compilateurs se sont attachés leur vie durant à réunir les différents hadiths, à les confronter les uns aux autres, quant au contenu, matn, et partant à les classer. Ainsi, certains hadiths sont dits « forts », c'est-à-dire « authentiques », et d'autres sont jugés « faibles », car la chaîne de transmission, isnad, n'a pas été validée ou qu'elle comporte des blancs. Une science de la divergence des hadiths a fait son apparition au IXe siècle. Si le hadith est incomplet, étrange, harib, ou qu'il est contradictoire avec un autre hadith, les théologiens s'évertuent à en montrer les divergences et les aspérités. Ils préconisent dans certains cas d'abroger naskh, tel ou tel hadith, que cette abrogation soit totale ou partielle. Plusieurs théologiens, tels Ibn Qutayba, mort en 889, ou Zamakhshari, mort en 1144, se sont illustrés dans ce domaine.